Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire, les Léopards de la RDC ont perdu hier mercredi en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations devant les éléphants de la Côte d'Ivoire. Les acteurs politiques, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, saluent la performance de ces Léopards qui finissent parmi les quatre meilleures équipes d'Afrique. La 30e édition du forum minier s'est clôturée hier dans la ville de Cape Town en Afrique du Sud. À l'occasion, un petit déjeuner thématique sur la RDC a été organisé par le ministère des Mines. Une occasion pour les parties prenantes congolaises de saluer la performance des entreprises minières, mais se disent également conscientes des défis encore à relever dans cette industrie. Au Kasaï oriental, 1300 enfants non déclarés depuis leur naissance à l'état civil reçoivent leurs actes de naissance. L'obtention des jugements supplétifs d'actes de naissance a été prise en charge par les Hauts Commissariats des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR. D'abord, cette information. Un accident de circulation a fait une dizaine de morts ce jeudi sur le boulevard Lumumba, près de l'entrée Mikondo du côté Massina à Kinshasa. D'après les commandants bataillon de la police de circulation routière, un véhicule Sprinter est entré en collision avec un camion Ben. 13 morts ont été dénombrés sur place. 2 autres ont succombé par après des suites de leurs blessures. D'autres sources parlent des 19 morts. Certaines sources parlent d'une mauvaise manœuvre du conducteur du camion. Cet avant-midi, la circulation était difficile dans cette partie de la capitale où des policiers déployés s'attelaient à évacuer les corps et à dégager la route. Les Léopards de la RDC se sont inclinés hier mercredi en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations devant les éléphants de la Côte d'Ivoire. Mais cette défaite, bien que cruelle, n'élude pas la joie que la sélection de la RDC a procurée à la population congolaise. Les acteurs politiques, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, saluent la performance de ces Léopards qui finissent parmi les quatre meilleures équipes d'Afrique. Suivez ces papiers de Blaise Makassi, rendus par Paul Matendo.
Quelques minutes après le coup de sifflet, le président Félix-Antoine Tshisekedi, par un communiqué publié par la présidence, a exprimé ses encouragements aux Léopards de la RDC après leur défaite en demi-finale de la CAN face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Pour lui, le parcours du 11 national congolais est très honorable. Le chef de l'État remercie les joueurs et le staff technique congolais pour l'honneur rendu à la nation, particulièrement la population meurtrie de l'Est du pays. Le président Tshisekedi souhaite bonne chance pour la petite finale qui aura lieu ce samedi contre l'Afrique du Sud. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, remercie les Léopards pour ce beau parcours, mais aussi pour avoir fait vibrer des Congolais et d'avoir renforcé l'unité entre les Congolais. Du côté de l'opposition, Moïse Katumbi-Tchapwe souligne le fait que les Léopards se sont bien battus en accédant aux demi-finales. Ils viennent ainsi d'écrire, selon lui, une très belle page de l'histoire du football congolais. La compétition continue, restons tous concentrés pour arracher la place d'honneur, conclut le président du Tout-Puissant Mazembe. Pour Martin Fayulu Madidi, les hommes de Sébastien Desabre ont fait rêver toute la nation congolaise. À coup sûr, ajoute-t-il, vous n'avez pas démérité. Bonne chance pour la troisième place. Les Léopards affrontent samedi 10 février les Bafana Bafana d'Afrique du Sud pour la troisième place de la compétition.
Au Nord Kivu, des nouveaux combats entre FRDC et M23-RDF sont signalés ce mercredi, d'une part sur l'axe Kibumba dans les groupements Buhunda en territoire des Nirangongo. Les sources de la société civile locale indiquent que les rebelles du M23 ont attaqué la position des FRDC située près du marché Ruhunda sur la route principale, une vingtaine de kilomètres au nord de Goma. Ces sources parlent d'intenses affrontements qui sont en cours. D'autre part, dans les territoires des Masisi, un calme apparent règne dans la cité de Sake, mais la situation reste imprévisible selon un habitant de Sake. Les sources administratives rapportent que l'ennemi a été repoussé vers le village Busankara, environ une dizaine de kilomètres de Sake, après des bombardements aériens sur les positions. C'est sur l'axe Kiloli-Rwe, ce qui aurait permis de stopper l'avancée du M23 vers Sake. Au bilan, on note 8 morts et 23 blessés du côté civil, atteints par balles et des bombes. Province du Tanganyika, la délégation des ambassades, de leurs partenaires des Nations Unies et des ONG internationales a visité ce mercredi certains projets réalisés par des agences des Nations Unies. Il s'agit notamment d'une maternité et d'un site de déplacés internes. Le point avec Paulin Munanga.
Cette maternité a été construite en 2023 par les fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Elle est située à une dizaine de kilomètres de Kalemi sur l'axe Kabimba au niveau de la localité Tabakongo dans la zone de santé de Nyemba. L'UNFPA a doté cette maternité de médicaments, des lits et de toute la literie pour permettre à la femme d'accoucher dans de bonnes conditions. Pendant 6 mois, cette agence humanitaire indique avoir pris en charge les frais d'accouchement pour les femmes. Actuellement, cette structure sanitaire est gérée par l'État congolais. Signalons que le centre de santé Tabakongo où se trouve la maternité est devenu un centre de santé de référence avec des médecins. Par la suite, la délégation des ambassades et leurs partenaires des Nations Unies et des ONG internationales s'est rendue au site des déplacés internes Elia, situé à 15 km de Kalemi. Elle a visité les activités de réinsertion socio-économique que les HCR et l'OIM mettent au bénéfice des déplacés. Des hommes et des femmes apprennent la pâtisserie, la coupe et couture, la menuiserie et d'autres métiers. Kalemi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Je le disais au sommaire, la 30e édition du Forum minier s'est clôturée hier dans la ville de Cape Town en Afrique du Sud. À l'occasion, un petit déjeuner thématique sur la RDC a été organisé par le ministère des Mines. Étaient présents les patrons des plus grandes entreprises minières et des institutions bancaires du pays, ainsi que des entrepreneurs dans les mines. Tour à tour, le premier ministre Jean-Michel Samalukonde et la ministre des Mines ont salué la performance des entreprises minières, mais se disent également conscients des défis encore à relever dans cette industrie, véritable fer de lance de l'économie congolaise. Cynthia Bachizé.
Je m'en voudrais de ne pas reconnaître le progrès considérable observé ces dernières années.
C'est une ministre des Mines satisfaite du bilan socio-économique de certains miniers en 2023, Antoinette Nsamba Kalambay.
La dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des sociétés minières a été libérée par 42 entreprises minières avec un montant de 145 287 366 $ américains, des écoles, des hôpitaux et morgues, des centres photovoltaïques sont construits dans les provinces du Haut-Katanga, du Lualaba et du Haut-Ouélé. Des écoles supérieures de métiers de mines sont créées et en voie de construction.
Pour autant, des grands défis demeurent pour une exploitation minière optimale, tributaire d'une justice sociale. Louis Watum, président de la Chambre des Mines de la Fédération des entreprises du Congo.
Bien sûr, tout ça ne se fera jamais avec le déficit énergétique que nous connaissons. Et puis enfin, l'exploration Greenfield. Il n'est pas normal, l'Afrique détient plus de 30% des réserves mondiales en ressources minérales. Et on n'arrive qu'à attirer moins de 13% en fait du budget global d'exploration dans le monde, qui est environ de 13 milliards de dollars.
Toutes les parties prenantes se sont mises d'accord sur la nécessité de diversifier l'économie congolaise assez vulnérable du fait qu'elle repose essentiellement sur le secteur extractif.
Les députés Crispin Bindoulé, élu de Butembo, sollicitent l'intervention urgente du gouverneur du Nord Kivu afin d'éviter une crise alimentaire en plus de la crise sécuritaire que traverse déjà la province. C'est en rapport avec la grève des dépositaires et transporteurs des produits vivriers dans le Grand Nord Kivu. Ces derniers dénoncent la hausse de la taxe sur l'expertise et les frais terrestres perçus par la Direction générale des recettes du Nord Kivu. Sadiki Aboubakar pour les détails.
Pour l'année 2023, la taxe sur l'expertise était de $5 américains pour une tonne de marchandises. Elle est actuellement à $12.5 américains la tonne. Dans l'ensemble, les taxes sur l'expertise et le fret terrestre sont passées de $45 à $150 américains pour l'exercice 2024, soit une augmentation de 200%, renseigne la coopérative des dépositaires des produits vivriers Codeprovi, basée à Butembo. Les transporteurs et dépositaires des produits vivriers réunis au sein de la Codeprovi se disent asphyxiés. Ils ont lancé un mouvement de grève depuis le 29 janvier dernier pour dénoncer cette hausse vertigineuse de ces deux taxes perçues par la DGRNK. Une situation qui fait redouter une crise alimentaire dans la région des Beni-Butembo-Lubero qui dépend entièrement de l'activité de ces derniers. Dans une lettre adressée au ministre de la Défense nationale le 5 février dernier, le député Crispin Bindoulé, élu de Boutembo, sollicite son implication pour demander au gouverneur militaire du Nord Kivu de tout mettre en œuvre pour revoir à la baisse les deux taxes. C'est pour, dit-il, éviter une crise alimentaire dans cette province qui fait déjà face à une crise sécuritaire, souligne Crispin Bindoulé dans sa correspondance. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Au Kwilu, le trafic est coupé entre Bulungu Cité, chef-lieu du territoire portant le même nom, et la ville de Kinshasa. À la base, les ponts Kabangu qui relient ces deux coins du pays vient de céder il y a cela quelques jours. Selon la société civile locale, l'écroulement de ces ponts aura beaucoup de conséquences sur les plans économiques sur Bulungu, car il permet les échanges commerciaux entre ces territoires et la capitale. Son président Franck Kitapindou plaide auprès des autorités attitrées et de l'Office des routes afin que la solution soit trouvée. Office des routes, Brigade de Kikwit, de son côté, rassure que les travaux des démontages de cet ancien pont et du montage d'un nouveau sont déjà en cours d'exécution. Irène Bomaluzolo pour plus de précisions.
Construit depuis l'année 1953 à l'entrée de la cité de Bulungu, le pont Kabangu jeté sur la rivière portant le même nom s'est effondré lundi dernier, coupant ainsi le trafic entre cette cité et Kinshasa, la capitale. À l'origine, la traversée d'un gros véhicule transportant des vivres frais en provenance de Kinshasa a déclaré Franck Kitapindou, président de la société civile locale. Selon lui, ce pont est d'intérêt économique très capital car il permet les échanges commerciaux entre Kinshasa et Bulungu. Il en appelle à l'intervention des autorités et de l'Office des routes. Pour sa part, l'Office des routes, qui reconnaît l'état de délabrement très avancé de cet ouvrage à cause de sa vétusté, affirme accélérer les travaux déjà entamés pour le remplacement du Dupont et cela avec le financement du FONER. Aner Kaya Makakesa est le chef de brigade de Kikwit.
Nous sommes en train de démonter l'ancien pont. On a déjà levé tous les garde-fous qui étaient là. La situation devient un peu difficile, mais nous devons faire que nous puissions monter le nouveau pont pour lancer. Tous les matériels de nouveau pont est disponible depuis longtemps. Les travaux pour le démontage et le montage, c'est 45 jours ouvrables, sans intempéries.
Signalons que l'engin qui a occasionné l'écroulement de ces ponts a été sorti de l'eau mercredi par l'Office des routes. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Le territoire de Malemba-Nkoulou est en proie à la dévastation des champs par les éléphants. La société civile locale sollicite l'implication des autorités pour organiser le refoulement des éléphants afin d'éviter que tous les champs ne soient complètement ravagés. Jean Gandou.
La société civile de Malemba-Nkoulou signale la divagation des éléphants dans plusieurs groupements dont Kabumbulu, Kakomba, Bunda, Kilumba, Ndala, Kabala, Kuba et Lupichi. Ces éléphants qui proviennent du parc Upemba ont déjà ravagé plusieurs champs de maïs, de manioc, de haricots, d'arachides et autres, ce qui fait redouter la famine, souligne la société civile. La situation de Malemba-Nkoulou est d'autant plus préoccupante que la population qui assiste impuissante à la dévastation des champs est aussi victime des inondations causées notamment par les débordements de l'eau du fleuve et l'abondance des eaux de pluie. Pire encore, il y a des maisons qui se sont écroulées, rendant ainsi de nombreuses personnes sans abri et sans assistance. D'où ce cri de détresse de la société civile locale. Bovik Mujinga, son coordonnateur.
Nous demandons au gouvernement, tant national que provincial, à songer à cette pauvre population qui croupit dans la misère.
Au sujet de la divagation de ces pachydermes, l'administrateur du territoire de Malemba-Nkoulou, qui confirme cette information, indique qu'il a plusieurs fois écrit à l'Institut congolais pour la conservation de la nature pour solliciter son intervention afin de refouler ces éléphants et éviter ainsi que la dévastation des champs ne continue. Malheureusement, indique Joël Kayembe, jusqu'à présent, rien n'est fait. Notons que le territoire de Malemba-Nkoulou est essentiellement agricole. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Au Kasaï oriental, 1300 enfants non déclarés à l'état civil ont reçu ce mercredi à Katanda, à plus ou moins 60 km de Mbujimayi, des actes de naissance grâce à l'implication du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. D'après les chefs des sous-bureaux des UNHCR, cette activité rentre dans le cadre de lutte contre l'apatridie ou encore état d'une personne qu'aucun état ne reconnaît comme ressortissant par application de sa législation. La cérémonie a été une occasion pour sensibiliser les parents à déclarer leurs enfants dans les délais de 90 jours après leur naissance. Des explications avec Esther Ndalafina.
Cette cérémonie a réuni plusieurs acteurs impliqués dans l'enregistrement des enfants à l'état civil. Ces 1300 enfants ont été identifiés par les services étatiques ainsi que deux ONG qui se sont relayées dans le but d'atteindre l'objectif. Carlos Stana, responsable de l'ONG Viboza, vivre en bonne santé.
Kasaï Oriental, nous avons mené spécifiquement ces activités dans les territoires de Katanda, de Kabeyakamwanga et de Miabi.
Docteur Dia Jacques Godot, chef de la sous-délégation du HCR, a indiqué que cette activité rentre dans le cadre de la lutte contre l'apatridie.
L'apatridie, c'est le fait pour une personne de ne pas être reconnue par aucun État par application de son droit national. L'activité que nous menons ici est une activité qui se place dans le contexte de la prévention de l'apatridie.
Remerciant le HCR, l'administrateur de territoire intérimaire de Katanda, Mardoché Maweta, a sensibilisé les parents. Il a en outre donné un devoir aux enfants présent tel que restitué ici.
Je m'appelle Mouigaban. Quand je rentre à la maison, je vais demander à papa et maman où est mon acte de naissance.
C'était enfin une joie pour les parents des enfants bénéficiaires des actes de naissance.
Je suis ravi.
Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Au Sud Kivu, la situation des arriérés des salaires des agents administratifs de l'Assemblée provinciale ne concerne pas les gouvernements provinciaux. C'est plutôt le gouvernement central de Kinshasa qui s'est toujours chargé de la paie des émoluments des députés provinciaux et de leurs agents administratifs. Réaction du porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu. Tipson Idumbo reconnaît tout de même que le gouvernement provincial alloue les frais de fonctionnement à l'Assemblée provinciale et non les salaires. Emmanuel Elamenjoua Kabidi.
Les nouveaux députés provinciaux élus du Sud Kivu ont raté leur rentrée parlementaire le 5 février dernier comme prévu. Et pour cause, les installations de l'hémicycle provincial sont envahies par les agents administratifs de cet organe. Ils réclament les arriérés de 20 mois de la dotation du gouvernement provincial. Le porte-parole du gouvernement provincial rejette cette allégation. Tipson Idumbo.
Nous savons que nous ne payons pas les agents administratifs de l'Assemblée provinciale. Ce que le gouvernement leur donne, ce sont les frais de fonctionnement. Si à leur niveau, ils se le partagent comme salaire ou émolument, ça c'est à leur niveau, pas au niveau du gouvernement.
Tipson Idumbo en appelle ainsi les agents administratifs à faciliter l'accès aux nouveaux députés pour permettre la reprise de ces frais de fonctionnement.
Les agents administratifs doivent permettre la rentrée de la session extraordinaire. En ce moment-là, l'exécutif provincial va constater de nouveau le fonctionnement de l'institution et conséquemment, on va pouvoir libérer les frais de fonctionnement comme on en a l'habitude.
Signalons que si l'Assemblée provinciale du Sud Kivu ne fonctionne toujours pas, cela risque d'impacter sur les élections des sénateurs et des gouverneurs de province prévues dans les prochains jours. Emmanuel Elamejoua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a entrepris un voyage poignant à travers le Soudan où il a rencontré des familles déchirées par les conflits dévastateurs qui ravagent les pays, chassés de leurs foyers et de leurs moyens de subsistance par les troubles actuels. Ces familles endurent des difficultés inimaginables dans les camps de déplacés disséminés à travers les pays.
L'invité.
Au Kasaï Oriental, remise officielle ce mercredi des actes de naissance à 1300 enfants non déclarés depuis leur naissance à l'état civil. L'obtention des jugements supplétifs d'actes de naissance a été prise en charge par les Hauts Commissariats des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR. La cérémonie y afférente a été organisée au bureau du territoire de Katanda à plus ou moins 60 km de Mbujimaï. Docteur Djajak Gondo, chef de la sous-délégation de UNHCR Grand Kasaï, et notre invité, il s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, docteur Dia Jacques Gondo. Nous venons d'assister à une grande cérémonie. Le HCR venait de remettre officiellement les actes de naissance à plus de 1300 enfants qui étaient non déclarés par leurs parents à l'état civil. Qu'est-ce que le HCR vise en organisant une telle activité?
Merci, madame. Je voudrais dans un premier temps vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de remercier d'abord l'État pour sa bonne collaboration avec le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés que représente Mme Angèle Dikongwea Tangana, qui est la représentante du commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ici en RDC. Nous venons, comme l'avait signifié, de procéder à la cérémonie de remise officielle de plus de 1300 jugements supplétifs. Et ce, en faveur des enfants qui n'ont pas été déclarés dans les délais légaux de déclaration de naissance, c'est-à-dire les 90 jours après la naissance de l'enfant. Alors, de tels enfants, dès lors qu'ils ne sont pas déclarés dans les délais, se trouvent confrontés à une procédure très fastidieuse pour pouvoir obtenir un acte de naissance. Donc, nous avons tenu à les aider pour pouvoir répondre à ce besoin de reconnaissance juridique que consacre l'acte de naissance. C'est important pour nous parce que l'acte de naissance contribue à lutter contre l'apatridie. Cette activité se place dans le cadre de la lutte contre l'apatridie qui est pour le HCR une activité importante dès lors que le HCR a le mandat de la protection des apatrides mais aussi de la prévention de l'apatridie qui est un fléau majeur dans la mesure où le fait d'être apatride expose les personnes qui en sont victimes au déni de leurs droits fondamentaux. Donc pour le HCR, il s'agit d'une activité vraiment importante et nous sommes très heureux de pouvoir collaborer avec l'État congolais pour contribuer à la prévention contre l'apatridie dans ce pays.
Ces 1300 enfants, comment étaient-ils identifiés?
L'identification de ces enfants-là a été faite par notre partenaire opérationnel. Au départ, c'était AFSI et aujourd'hui, le partenaire avec lequel nous travaillons dans ce contexte-là, c'est Viboza, c'est-à-dire Vivons en bonne santé. Et les agents de ces ONG partenaires travaillent en collaboration avec la division des affaires sociales, la DIVAS, pour pouvoir identifier ces enfants qui relèvent du mandat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Je veux parler des personnes déplacées internes, des réfugiés qui étaient en exil mais qui se sont rapatriés. Je veux parler aussi des anciennes personnes déplacées internes qui se sont retournées dans leur zone d'origine. Et il y a aussi quelques membres ou quelques enfants de la communauté haute les plus vulnérables. Donc c'est dans ces catégories de groupes-là que l'identification est faite pour identifier les enfants qui n'ont pas pu être déclarés dans les 90 jours suivant leur naissance par leurs parents.
Comment coordonnez-vous cette activité avec l'UNICEF qui, lui aussi, appuie l'état civil avec les registres de naissance?
Merci pour cette question. La coordination reste très essentielle pour nous en tant qu'acteurs humanitaires pour pouvoir éviter les dédoublements dans ce contexte de l'amenuisement de l'aide internationale. Ce que nous faisons avec l'UNICEF, des réunions nous ont permis de nous accorder pour pouvoir répartir les rôles. L'UNICEF s'occupe de l'identification des enfants et de l'appui pour la délivrance des actes des enfants qui ont moins de 5 ans. En ce qui concerne le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il s'agit des enfants qui ont plus de 5 ans. Et c'est notamment cette catégorie-là qui est très souvent soumise à des procédures lourdes. Et nous le faisons en collaboration avec l'UNICEF pour un objectif bien clair que j'ai précisé, à savoir la lutte contre l'apatridie, qui est une question qui relève du mandat du commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Quels sont les moyens que l'HCR met en œuvre pour faciliter l'enregistrement des enfants hors délai?
Nous avons dans un premier temps la formation des agents de l'État. Nous avons la mise à disposition des agents de l'État, des registres pour instruire les noms des enfants dans un premier temps. Nous avons aussi le mobilier comme matériel de bureau.
Docteur Dia Jacques, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Et par ici s'achève ce journal, madame, messieurs. Mise en onde par Polydor Basunga, supervision et coordination, Martin Sebujangwe et Élisée Tchukota. À la présentation, Patience Ngalula. Nous vous disons merci de votre sympathique attention.